France Inter.
Les institutions ne bougent pas, ou si peu. La police, la justice et les politiques ne bougent pas, ou si peu. La rue, elle, clame sa colère et de plus en plus fort, 7 ans après les débuts de MeToo. Et elle l'a clamé plus fort encore avec le procès de Mazan cette année. Et pourtant, à mon époque, le consentement, on n'en parlait même pas. Ça n'était même pas une question. J'ai à peu près l'âge d'Ovidie. Au micro d'Unique en son genre, grande sœur d'En Marge, elle était venue se raconter son récit, celui d'une violence ordinaire. C'est l'épisode 6 de notre série « Pour que la honte change de camp ». Le 25 août 80, elle naît, elle a 2 parents fonctionnaires, habitant en zone pavillonnaire, elle a des bonnes notes, tout va bien, elle bosse même en cours de latin, alors elle peut fumer des joints. Ses parents ne lui disent rien, elle le fait quand elle sort le chien. Ah oui, les chiens. Le premier, elle avait 1 an, il avait encore toutes ses dents, c'était un énorme chien en peluche, on dit qu'il s'appelle Cubitus. Cubitus a 40 balais, c'est quand même pas mal pour un chien. Alors quand elle sort en forêt, maintenant elle embalade un vrai, Cubitus reste au pied du lit. Il faut bien qu'elle vive sa vie, regarde en arrière, dans le rétro, quand Cubitus avait le poil fier et qu'elle était encore ado, plus tout à fait dans l'inconscience, le début d'une certaine violence. Elle est gothique, elle est corbeau, le cheveu noir, un peu mutique, mais elle adore son prof d'histoire, il est trotskiste, elle est tanard, son amoureux violoncelliste, il est métis de grands yeux verts. Il les ferme un peu trop souvent. Il se défonce et elle le quitte. Elle pleure un peu, trouve ça navrant. Mais il faut bien qu'elle regarde devant. Les films sont plus harmonieux que la vie. Il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends, comme des trains dans la nuit. Elle cite la nuit américaine. Le cinéma, ça offre une vie. Et pour décoller de la sienne, bah, elle écoute du Kurt Cobain.
France Inter. Julia Foyce. Unique en son genre.
We passed upon the stair, spoken walls and well, although I wasn't there, said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died.
Man Who Sold The World, et hop, ça y est, on y est, en plein cœur des années 90, les nôtres, les vôtres. Ovidie, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes documentariste, réalisatrice, autrice de ce troublant roman graphique, Les Cœurs Insolents. Insolence de qui? Pourquoi? L'insolence de l'adolescence?
L'insolence de l'adolescence, bien sûr. Ouais. L'insolence de l'illusion de la radicalité. L'insolence, la mienne aussi.
Alors, c'est l'insolence et l'adolescence de votre fille qui vous replonge dans la vôtre. Vous, vous êtes ado sur la décennie 90, décennie du rien ou presque. En fait, vous êtes d'une génération qui n'a pas de nom, dites-vous. Pas d'identité non plus, pas vraiment.
Non, je pense que je fais partie d'une génération qui n'a rien fait de majeur, qui n'a rien accompli de majeur dans les années 90. C'est vrai que c'était un grand rien. On était avant la révolution numérique, on était après le punk, etc., etc. Nous, on était dans un entre-deux. On n'avait pas de nom, on n'était ni génération X, ni génération après Y, génération Z. Mmh. On était vraiment dans cette espèce de trou, dans cette frise chronologique, dans cette frise de l'histoire. Et non, franchement, on n'a rien fait de majeur. Et même au niveau de nos tenues vestimentaires, on était une inspiration de plein d'époques. C'était un gros boucli-bouga de plein de choses, mais on n'avait pas d'identité propre.
Vous êtes à l'époque de celles que vous appelez les salopes ignorantes. C'est qui? C'est quoi?
Ah, les salopes ignorantes, c'est toutes celles qui sentaient que quelque chose déconnait, mais sans pouvoir poser de mots là-dessus, d'où le mot ignorant, mmh. En fait. C'est toutes celles qui ont subi un certain nombre de violences sexistes et sexuelles, mais qui n'employaient pas le mot consentement, qui ne savaient même pas ce que c'était, qui n'employaient pas le mot harcèlement, le mot slut-shaming, etc., etc., des concepts qu'aujourd'hui les jeunes filles manient. Mmh. Et utilisent et apprennent sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux apprennent des choses positives aussi.
C'est toute la différence, effectivement, entre ces deux générations, ces deux adolescences, celle de votre fille et la vôtre, que vous mettez en miroir. Et pardon pour cette magnifique transition, puisqu'on parle de miroir, je vous offre un miroir, je vous le tends.
Ah mon Dieu.
C'est pas dans le rétro que vous allez regarder, c'est dans le miroir et c'est maintenant.
Dans le miroir.
Si vous vous regardez, Ovidie, est-ce que c'est un exercice que vous aimez?
Non, pas du tout.
Du tout.
Je fuis les miroirs.
C'est vrai.
Je suis très mal à l'aise.
Depuis toujours?
Déjà, il y a eu une longue période de ma vie aussi où, je sais pas, enfin, c'est tout con, mais j'ai fait des couvertures de magazines, etc. J'ai posé. Mmh. Donc, il y a un truc, un rapport à mon image qui est réglé. Mais, je vieillis. Donc, j'ai du mal à me croiser dans un miroir, là, parce que je vois des choses que j'ai pas du tout envie de voir. Non, j'ai pas du tout un rapport apaisé à mon image.
Qu'est-ce que vous pourriez aimer, à l'inverse, de vous, quand vous vous regardez?
Ah, mais j'ai vraiment une image dégueulasse de moi-même, hein, vraiment.
À ce point-là, il n'y a rien à sauver?
Ah, je ne dis pas qu'il n'y a rien à sauver. Parfois, je me dis, c'est quand même pas si mal. Il y a deux, trois trucs, je pense, pas inintéressants que j'ai pu faire. Je ne sais pas, peut-être, il y a certains documentaires que je suis fière. Il y a quelques trucs que j'ai pu écrire dont je suis fière aussi. Mais
de votre image?
Mais de ce que j'accomplis, en fait. Voilà, il y a des choses que j'arrive à me revaloriser par forme d'accomplissement, par ce que je fais. Mais je n'arrive pas à me valoriser par ce que je suis, fondamentalement. Ouais. C'est-à-dire, je ne m'aime pas.
Ça, c'est fou. Et ça, on en parlera parce que...
Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on se prenne un bon thé vert là et qu'on en discute.
Exactement. Qu'est-ce qui pourrait faire mauvais genre chez vous?
Ce qui fait mauvais genre, c'est que j'ai une façon de penser qui est très solitaire. Et donc, je fais tout toute seule et je prends toutes mes décisions toute seule, mes décisions de vie toute seule. Je voyage seule. Moi, je connais plein de meufs qui sont incapables de passer un week-end toute seule ou d'aller même au cinéma toute seule. Moi, je suis la nana qui, tout à coup, va prendre un train, va traverser l'Europe toute seule ou va prendre un avion toute seule ou va aller, au-delà du cercle polaire toute seule. Enfin, moi, je suis...
Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça fait encore mauvais genre?
Parce que, déjà, la preuve que c'est pas si fréquent, c'est que moi, j'ai quelques potes de voyage parfois que je vais croiser et c'est que des hommes, donc déjà, et pas de femmes. Mmh. Donc c'est bien la preuve que chez les femmes, c'est pas tout à fait acquis, cette idée qu'on peut juste naviguer seul aussi dans la vie. Et pourquoi ça fait mauvais genre? Parce qu'on est censé appartenir à quelqu'un. On est d'abord censé, enfin c'est tout système patriarcal, on est censé d'abord appartenir à son père, après on est censé appartenir à un mari, etc. etc. Enfin, il y a plein d'hommes qui ont envie de nous faire disparaître de l'espace public, que ce soit la rue ou les réseaux sociaux, c'est pas pour rien. Donc le fait de penser seul, d'acheter sa maison seule, toute l'année, je pense seule et je suis même très souvent très 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 seule volontairement. Hein, mais ça fait vraiment mauvais genre. Une femme seule, c'est quelque chose où soit on se dit la pauvre, mon Dieu. Enfin, c'est toujours suspicieux.
Petite fille, vous étiez seule aussi?
Ouais, moi j'étais ultra seule. Ouais. Ouais. J'ai toujours été ultra seule. J'ai toujours cherché la compagnie des chiens. J'ai toujours eu des chiens et j'en ai toujours.
Donc Cubitus.
Donc Cubitus.
Évidemment.
Et d'ailleurs, pour la blague, j'ai quand même Cubitus tatoué sur le Cubitus.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui, donc c'est un amour, un vrai,
c'est
quoi.
C'est un vrai amour. Non, mais j'ai toujours eu des chiens parce que les chiens mentent pas. Les chiens sont extrêmement fiables et les chiens nous aiment d'un amour absolu. Et depuis que je suis vraiment, mais toute petite, d'ailleurs, quand je regarde les photos de moi enfant, il y a toujours un clébard dans le coin. Donc, seule, mais avec mes clébards. Et puis après, pas complètement seule, puisque je suis maman. Donc, pas complètement seule, mais j'ai du mal à penser le couple.
Unique en son genre.
Nous voici donc avec vous, Ovidie, et avec cette BD téléportée en 1995 dans une zone pavillonnaire de la banlieue de Lille. À l'époque, on fume des clopes dans la cour du lycée, on attrape des capotes à la caisse des supermarchés, on peut acheter de l'alcool à 15 ans sans que rien ne nous soit demandé, poser nu pour un peintre, ça, vous l'avez fait, se faire percer le nez, fait aussi, sans qu'aucune question ne vous soit posée. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette liberté-là qui était la vôtre, qui était la nôtre?
C'est une liberté que nos parents nous ont laissé parce que je pense que eux-mêmes avaient eu envie de régler ce problème, cette relation à la liberté. Nos parents, c'est plutôt la génération qui ont fait 68, en tout cas, mes parents, c'est ça. Mmh. Et ils nous ont laissé une liberté totale dont on n'a pas toujours su trop quoi faire. Moi, je fais partie de ces gamins qui ont été élevés avec des parents qui me parlaient comme une petite adulte depuis toujours, en fait. Ouais. Et ce que je trouve très bien dans l'absolu, mais il y a aussi eu vraiment cette liberté qu'on n'a pas su, je pense, gérer. Et quand je repense à toutes ces années-là, autour de moi, c'était l'hécatombe, c'est-à-dire la quasi-totalité de mes copains étaient tout le temps défoncés. C'est une époque où on fumait énormément, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup.
De joint.
Ouais. Et je me souviens avoir eu plein de potes qui, le matin, au réveil, dès le réveil, se tapaient des bangs, etc., ouais, etc., ou s'attaquaient à l'alcool.
Alors, à l'époque, toutes les filles prennent la pilule. Écrivez-vous pour l'acné, pour faire comme les copines, ou alors juste au cas où, tomber enceinte, c'est l'enfer absolu. Avoir un rapport à risque, c'est trois mois avant de pouvoir faire un test. On a compris il n'y a pas si longtemps que ça que le sida, non, ne frappait pas que les homosexuels. La sexualité, dans ce contexte-là, ça fout la trouille à ce moment-là.
Ce qui fout la trouille, c'est les conséquences, effectivement. Ouais. Je crois que la plus grande terreur, c'était quand même la grossesse. C'est ouais. assez curieux, hein, quand même, pour une génération sida, d'avoir eu plus peur, finalement, ouais. D'une grossesse non désirée que de la mort, quoi. Parce que à ce moment-là, bah, effectivement, quand on voulait avorter, on pouvait pas avorter sans autorisation parentale. C'était la pilule, c'était quand même, enfin, fallait aller au planning. Enfin, c'était pas si évident que ça. Il y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui, l'accès à la pilule quand on est mineur, l'accès à la pilule du lendemain gratuite. Enfin, il y avait pas tout ça, quoi. Je pense vraiment que ce qui nous foutait le plus la trouille, parce qu'autour de nous, bah, on était plein à soit tomber enceinte, soit, enfin voilà, ce qui nous foutait le plus la trouille, c'était la grossesse non désirée.
Et voilà. Alors, le porno à l'époque n'était pas accessible, hein, comme aujourd'hui, les réseaux sociaux n'existaient pas, et pourtant, c'est assez frappant avec un certain nombre de scènes que vous racontez. Les rapports entre les garçons et les filles sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Ils sont fondés sur quoi ?
Ils sont fondés sur quoi ? C'est une bonne question, mais effectivement, il y a des choses qui sont immuables, qui n'ont pas beaucoup bougé, qui sont des situations sexistes, tout simplement, et de volonté du corps, de contrôle du corps des ouais. femmes et des jeunes filles.
Des jeunes filles qu'on se fait passer de main en main et qu'ensuite on traitera de salopes,
par exemple.
Préférablement plus jeunes, plus vulnérables.
Moi, je me souviens des filles qu'on appelait les salopes du lycée. Enfin, ouais. faut voir comment se construit une réputation aussi et comment encore une fois, on respectait pas forcément leur consentement. Enfin, ouais. tout ça ne change pas la différence. Aujourd'hui, c'est qu'on en parle. Ouais. C'est-à-dire, en fait, souvent, on dit, oh là là, aujourd'hui, avec l'hyper-accessibilité du porno, avec les réseaux sociaux, regardez, quelle horreur, voyez comme nos enfants sont en train de tomber dans n'importe quoi. Mais en fait, tout ça, ça existait déjà. Il y avait déjà des viols, il y avait déjà des agressions, il y avait déjà des abus. La différence, c'est qu'on le disait pas. Et vu qu'on le disait pas, on mettait un mouchoir dessus. On faisait comme si ça n'existait pas. C'est juste ça la différence, c'est qu'aujourd'hui on en parle.
Les Working Girls des années 80 avaient achevé ce qu'il restait du féminisme des années 70. Il est pour le moins balbutiant, hein, je crois, le féminisme quand on est ado, vous et moi. Un peu épuisé, même l'écologie est elle aussi un peu essoufflée. Mais en 94, voici la crise de la vache folle. Vous voyez des troupeaux de vaches abattus dans les JT, vous devenez végétarienne. Un an plus tard, la France est dans la rue pour protester contre le plan Juppé sur la réforme des retraites. Le pays est paralysé et vous, vous êtes scotché devant la télé.
Cet après-midi à Rennes, ce sont les cheminots qui voient le défilé. 7000 personnes environ y ont participé. Les organisateurs annonçaient 10 000 manifestants dans les rues. La police a chiffré leur nombre à 2 000. Tous avaient un seul et même mot d'ordre, le retrait du plan Juppé et sa démission. Organisée par la CGT-FO, la FSU et le Sud-PTT, le rassemblement d'aujourd'hui devait permettre aux salariés du privé de se joindre au mouvement.
Quel effet ces manifestations ont sur vous, Ovidie ?
Franchement, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs d'adolescence.
C'est
pour
vrai?
Moi, ça a été une révélation. L'exaltation politique, enfin, ces mouvements-là, je me souviens qu'à l'époque, on était persuadés que ça y est, c'était la révolution qui était en marche, quoi. Enfin, ça nous semblait tellement énorme, il y avait tellement de monde dans les rues, enfin, on avait l'impression que ça y est, il se passait quelque chose, et pendant des semaines, on m'a pas vue au lycée. Et vraiment, je suis pas allée. Ça a été hyper compliqué d'y retourner, d'ailleurs, après, parce que j'avais franchement plus envie. Mais c'était hyper formateur. C'était une période où j'ai lu plein de textes politiques, c'était stimulant intellectuellement, et puis j'avais la sensation de participer à quelque chose de collectif, quoi. Et tout à l'heure, je disais que je suis vachement seule, mais pour une fois, ça me donnait l'impression de participer collectivement à quelque chose d'important.
Alors, vous le dites dans votre livre, vous êtes à ce moment-là issu de la classe moyenne, vous n'avez combattu pour l'instant contre rien, vous n'avez pas affronté les difficultés de la vie, en tout cas, c'est vous qui le dites comme ça, et tout à coup, vous vous retrouvez anard, contestataire. Vous le dites avec pas mal d'ironie bienveillante. C'est comme ça que vous êtes à l'époque.
Ouais. Après c'est pas arrivé out of the blue non plus. Mes parents c'est un peu des gauchos. Et puis ouais. Mon grand-père il avait fait les grèves de 36. Enfin bon voilà. Donc il y avait un peu une espèce de tradition
familiale,
communisto, ouais. gaucho, je sais pas quoi. Et ouais, d'abord j'avais un peu fricoté avec les JC, après j'étais plutôt à la
jeunesse communiste. Ouais.
Et bon voilà. Et mais
et
c'est
pas
vrai
avec
que
Jésus-Christ.
Non, c'est pas le même. Et voilà. Et c'était donc non, c'était déjà des la justice sociale, on va dire au sens ouais. large. C'était quelque chose qui me touchait, qui m'intéressait. Et voilà, je trouvais ça hyper. Mais même je trouvais ça hyper stimulant intellectuellement et même un peu flatteur de lire certains textes compliqués, tout ça.
Fin... De réussir à les comprendre. Ouais. À l'époque, vous teignez les cheveux en noir, vous passez un trait d'eyeliner noir aussi sur les yeux. Vous êtes gothique musicalement parlant. Vous aimez les filles un peu énervées quand ça se pète les ongles sur la guitare et quand ça pleure du sang. Ouais, un peu, c'est marrant. Et ça, c'est Violet du groupe Hole. Oh oui, vous l'avez écouté. And the sky was made of amethyst. And all the stars are just like little fish. You should learn when to go. You should learn how to say no. Passe certainement dans l'une de ces soirées quand vous nous présentez Audrey dans la BD. Tout le monde, écrivez-vous, voulait être Audrey. Pourquoi ?
Parce qu'Audrey était belle, tout simplement. On avait tous, enfin toutes surtout, envie de lui ressembler. On avait envie d'être désirée comme elle aussi. Audrey, quelque part, c'était... Des Audrey, il y en a eu plein, en fait. Mmh. C'est la bonne meuf du lycée, quoi. Tous les garçons se retournent sur son passage. C'était ça, Audrey. C'était ma copine.
Sauf ouais. que ça finit aussi par se retourner contre elle.
Sauf que ça finit par se retourner contre elle, parce que Audrey finit par avoir une mauvaise réputation, parce qu'Audrey a du mal à dire non, parce qu'Audrey a besoin de se revaloriser à travers le regard masculin. Et elle finit par le payer, et elle finit par devenir ce qu'on appelle donc la salope du lycée.
Ouais. Alors, quand vous sortez avec elle, elle voudrait que vous fassiez comme elle, avec les garçons, avec l'alcool. Elle veut... Je vous cite un compagnonnage de salopitude. La plupart du temps, vous réussissez à éviter. Et puis un soir, il y a ce verre de vodka chocolat. Et puis une culotte en sang. Le lendemain matin, entre les deux, il s'est passé quoi ?
Je sais plus.
Tu savais plus ?
Non. Je me souviens d'avant. Je me souviens de quelques sensations. Je me souviens de vaguement avoir dit non. Mais je me souviens du réveil et du sang dans ma culotte. Ouais.
Vous étiez ivre, un ami avec 22 guillemets vous entraîne dans une chambre, la porte se referme. Et là, il n'y a plus de souvenirs, des souvenirs par flash. Aujourd'hui, comme vous le dites, on en parle de ces histoires-là.
Ouais.
À l'époque, pas du tout. Vous avez quelqu'un à qui en parler ?
À ce moment-là ?
Ouais.
Pas du tout. J'essaie quelques jours plus tard quand même de reparler à quelques personnes qui étaient présentes ce soir-là et gros déni, genre oui, enfin bon quand même tu l'as un peu cherché quoi. Ouais. Et il se passe quelque chose de très positif dans ma vie à ce moment-là, c'est que je déménage quelques jours plus tard. En fait, ça s'est produit quelques jours avant un déménagement. Mes parents ont été mutés dans une autre région. Donc, je dirais, en l'espace d'une semaine plus tard, en fait, j'avais déménagé. J'étais à des centaines de kilomètres de là. Et quelque part, je pouvais me reconstruire. Mais je me souviens en avoir parlé après 2-3 ans, après que j'étais justement dans les mouvements militants, etc. Donc plutôt anarchistes, antisexistes, etc. Et je me souviens que j'ai pas forcément trouvé une oreille très attentive. Ouais. Et c'est marrant, enfin c'est marrant, non c'est pas du tout marrant, mais même c'est un épisode que je raconte dans les Cœurs insolents, mais dont je parle pas en fait. La plupart des gens, jusqu'à la sortie des Cœurs insolents, la quasi-totalité des gens autour de moi n'étaient pas au courant de cette histoire en fait.
Vous mettez des années à mettre le mot viol dessus, c'est votre conscience féministe qui fait que des années après, vous pouvez vous dire, en fait, Oui, bah c'était ça, ça s'appelle comme ça.
Ouais, et je suis très à l'aise avec l'idée que c'est pas moi la coupable. Mais ça, assez tôt, ouais. Hein, je l'ai compris, ouais. Ce truc. Je suis très, très, très à l'aise avec ça. Ce qui, moi, m'attriste plutôt, c'est que les quelques rares personnes, je dirais ces 25 dernières années à qui j'en ai parlé, donc jusqu'à la sortie de la BD, les quelques rares personnes dans l'intimité à qui j'en ai parlé, y compris parfois une personne avec qui j'ai vécu, c'était un non-événement, en fait. Oui, quand je le raconte, c'est pas si grave, et c'est un non-événement.
Et vous écrivez, parmi les hommes de ma génération, il y en a un paquet qui ont un viol bien ordinaire sur la conscience. Vous décidez de ne plus jamais boire. Les garçons, en revanche, vous allez continuer, entre autres choses, parce que la seule idée que vous avez à l'époque de l'homosexualité, c'est gazon maudit. À l'écran, Josiane Balasco, Victoria Abril, Alain Chabat, et une caricature à bon gros traits.
S'il te plaît, Loli, est-ce que tu pourrais demander à ton mari qu'il ait la gentillesse de passer un slip? Merci.
Si on commence à s'arrêter à des détails aussi vite.
Petite nature, on a peur de la bête?
Non, je trouve ça moche à regarder, c'est tout.
Eh oui, mais je suis chez moi. Et chez moi, je me balade à poil, si je veux.
S'il te plaît, non, on ne rajoute pas. Et toi, au moindre petit problème, on fout le camp. Et après, tu dis que tu ne peux pas vivre sans moi? Enlève tes lunettes quand je te parle. Mais enfin, la preuve, c'est que j'arrive à supporter ton Jules. Il y a des limites. Moi, je partage pas. Alors, ou tu choisis, ou je me casse.
Mais cassez-vous, la porte est grande.
Arrêtez, je ne veux pas choisir.
Je ne veux pas choisir. Je ne peux pas.
Mais enfin, Loli, tu te rends compte de ce que tu me demandes?
Et à moi, donc, j'ai jamais pu saquer les gouines. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer.
Vous écrivez, je suis une gouine ratée, une hétérosexuelle par défaut. Notamment à cause de toutes ces représentations caricaturales comme
ou absence dit, ou cette absence,
c'est ça,
ouais, c'est absence totale de représentation. On est tout à l'heure, je disais, on était dans une période, les années 90, un grand vide dans notre génération, mais il y avait aussi un grand vide à ce niveau-là, c'est-à-dire l'homosexualité, ça y est, n'était plus une maladie mentale, etc. Ça n'était plus reconnu comme tel, mais c'était pas encore complètement puni, l'homophobie n'était pas complètement punie, donc on était dans un entre-deux comme ça où aussi l'homosexualité féminine n'était juste pas représentée dans notre environnement culturel. On faisait comme si ça n'existait pas. Vraiment.
Vous sentiez une attirance pour les filles ou vous sentiez qu'avec les garçons, c'était pas tout à fait ça ou vous cherchiez
pas,
vous savez
mais
pas.
J'en suis pas sortie de ce bordel en fait. C'est ça qui est fou, c'est que je sais pas. Et j'ai fini par accepter, je crois, à mon âge, en fait, d'être hétéro-romantique. Mmh. Et plutôt homosexuel et plutôt hétéro-romantique, parce que à chaque fois ça se termine avec des histoires d'amour avec des mecs et ça va pas du tout. Et voilà. Mais enfin, donc,
mais
ouais.
Avant de vous définir comme ça, il y a tout un long chemin à l'époque.
Ouais.
Vous faites plus simple, vous décidez que ben voilà, vous aimerez des garçons, vous coucherez avec des garçons. Il y a même des garçons avec qui ce sera très très bien. Par exemple, cette jolie première fois, premier amour, c'était pas Edouard le violoncelliste métis, c'est un autre, hein.
Si, c'était Edouard, violoncelliste métis. On peut définir comme ça le pauvre si l'on entend ça.
Ouais. Et celui dont vous parlez dans le livre que vous avez recroisé des années après.
Ah, c'est lui. C'est lui, ouais, c'est bien lui.
Mais
ouais,
voilà.
Ouais. C'est drôle d'ailleurs quand on recroise son premier amour ou quand on recroise quelqu'un dont on a été très proche comme ça. C'est que immédiatement, en fait, quand on est face à face, c'est comme si c'était passé deux semaines et demie, en fait. On reprend exactement nos marques, on se recomporte exactement de la même façon l'un vis-à-vis de l'autre, on se parle comme si on s'était toujours connus, comme si on s'était jamais séparés. C'est assez curieux.
Et en même temps, vous n'étiez jamais dit l'essentiel, à savoir que pour l'un comme pour l'autre, c'était la première fois.
C'était dingue. Pourtant, on est resté longtemps ensemble, hein, mais on n'avait jamais osé se dire, je pense par fierté, genre on voulait pas passer pour des puceaux, alors qu'en fait, c'était très beau, très romantique, et on n'a jamais osé se le dire. Ouais. Enfin, sauf quand on a eu 30 piges passées, qu'on s'est recroisés et qu'on se l'est dit.
France Inter, unique en son genre.
Vous avez 18-19 ans, vous entamez des études de littérature et de philo. Parallèlement, vous débutez une carrière d'actrice porno. Le moteur, c'est la curiosité, le goût de la marginalité, celui de la transgression. C'est quoi? Quand vous y réfléchissez 20 ans après, avec 20 ans de recul?
Je sais pas, c'est compliqué, parce que 20 ans après, on peut toujours réécrire l'histoire. Et puis, c'est une question qu'on m'a tellement posée qu'à force d'y répondre, je sais même plus, les mots ont plus vraiment de sens, quoi. Ce qui est sûr, c'est que c'était une quête de transgression. Voilà, tout simplement. C'est vraiment ça. Et faire chier le monde, quoi.
Donc, qui irait avec votre côté anarcho-libertaire, etc. Ou
Il y a un truc, moi, les figures qui, à l'époque, m'intéressent, c'est des figures qui utilisent des figures féminines qui utilisent le corps comme moyen d'expression de leur radicalité. Je pense, entre autres, à des gens comme Lydia Lunch, je pense à Annie Sprinkle, qui a été une des fondatrices du féminisme pro-sexe. Mais même des figures musicales, Courtney Love aussi, ouais, d'une certaine façon, ou les nanas, toutes les Riot Girls et tout ça, toute cette période-là, enfin, des filles énervées qui, en même temps, jouaient sur une image de la sexualité qui était loin d'être consensuelle et loin d'être excitante pour les mecs, en fait. Même Nina Hagen, d'une certaine façon, enfin, c'est des femmes qui exprimaient une sexualité offensive, agressive, presque, très, 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 vraiment très sexualisée et en même temps pas forcément excitante pour les gars.
Alors, vous serez 3 ans, pas plus, actrice dans le X. Vous passez assez vite de l'autre côté de la caméra et ça durera plus longtemps parce que, quitte à raconter des histoires, autant que ce soit vous qui les racontiez, vous préférez cette place-là plutôt que d'incarner.
J'ai réalisé très vite, en fait, à peine un an après, dès 2000, je crois que j'ai réalisé mon premier film en 2000, alors que j'ai fait mon premier film comme actrice en 99. Donc, vraiment, c'est arrivé très rapidement. Bah, l'idée, ça a été, après, je dis pas que ça n'a pas été foireux au début, mais l'idée, ça a été de produire des contre-images, en fait. Ça a été de produire, en fait, son propre discours sur la sexualité en images, quoi. Et c'était ça, c'était répondre.
Parce que les femmes sont très, très peu nombreuses, à réaliser.
Bah, à l'époque, c'était le désert de Gobi, hein, à ce niveau-là. À l'époque, il n'y avait vraiment personne. On se comptait dans le monde, on se comptait sur les doigts d'une main. Il y avait une première génération au début des années 80, donc avec Candida Royal, Annie Sprinkle, enfin voilà, toute une vague américaine de féministes pro-sexe. Après, il n'y a plus rien eu. Après, moi, je suis arrivée à la fin des années 90, et au début des années 2000, il y a des gens comme Erika Lust, etc., qui sont arrivés. Mais moi, quand je suis arrivée, c'était le désert total. En France, si, il faut quand même le dire, il y avait des personnes comme Émilie Jouvet, qui réalisait des films queer. Sinon, dans tout ce mouvement féministe pro-sexe, fin des années 90, début des années 2000, il n'y a personne. Et même, ça va plus loin que ça, c'est qu'on ne parlait même pas de travail du sexe. Le terme travail du sexe, quand moi je l'emploie dans les premières émissions que je peux faire vers 2000, quelque chose comme ça, c'était en France, franchement, je crois, médiatiquement, je crois que j'étais la seule à l'employer, ce terme.
Justement, vous êtes un ovni, très clairement. Les médias très vite s'intéressent à vous. Et on s'en doute, Thierry Ardisson n'est pas le dernier à vous inviter, écoutez.
Moi, je suis pour le fait que les femmes s'assument en tant que femmes et pas en tant qu'image ou imitation de l'homme. Mmh. Je suis pour que les femmes s'épanouissent sexuellement. Donc, je pense que quelqu'un qui n'est pas épanoui sexuellement ne peut pas se sentir bien.
Votre idée, en fait, c'est de convaincre les femmes que la pornographie peut être saine et ludique. Et c'est vrai que pour le moment, elles n'en sont pas toutes persuadées.
Non, mais je pense aussi que c'est parce qu'il y a une grande partie de la pornographie qui effraie les femmes, tout simplement. Ouais. Il y a une grande partie de la pornographie qui est très machiste. On voit des filles qui font la tronche, qui se font démonter. Ça donne pas envie, quand même. Ouais. Moi, j'ai envie d'apporter une pornographie plus saine où la nana, elle regarde le film et qu'elle se sente déculpabilisée.
Alors, vous êtes dans le film de Benex, donc Mortel Transfert, on l'a dit. Quand vous avez rencontré Benex, il vous a demandé, il vous a dit, pourquoi tu fais pas du vrai cinéma? Ça vous a énervé?
Oh oui, ça m'a vexé, parce que j'estime faire du vrai cinéma.
Ouais.
Je fais du cinéma pornographique, c'est, on peut dire c'est le cinéma du pauvre, mais c'est du vrai cinéma. Mmh. C'est un genre cinéma.
C'est un genre qui vous plaît?
Oui, énormément.
Ouais. Souvenir de Tout le monde en parle en 2001, vous auriez envie de lui dire quoi? À cette toute jeune femme de 20 ans.
Bon, je me trouve rigolote quand je me regarde de loin. Aujourd'hui, je suis absolument plus d'accord avec ce qu'on vient d'entendre. En fait, aujourd'hui, je me raconterai les choses bien, bien, bien autrement. Mais et je défendrai pas. Enfin, je veux dire, j'en suis revenue des mouvements féministes pro-sexe, de la pornographie féministe, de tout ça. Oh là, alors là, je pense
qu'on n'a pas 3 heures.
Mais là, on n'a pas 3 heures. Là, et là, ce serait très long. Quand je dis j'en suis revenue, ça ne veut pas dire que je regrette. Je pense que c'était historiquement intéressant à ce moment-là de se poser les questions de est-ce qu'une pornographie féministe est possible et tout ça. Aujourd'hui, en 2021, quand on voit qu'il y a un gros féminisme washing qui a été repris aussi au niveau de ce qu'était la pornographie féministe, quand on voit que des grosses plateformes du type Pornhub, etc., de temps en temps, ils font un espèce de féministe washing.
Washing, c'est le fait de se faire passer pour féministe.
Exactement.
Avec un petit coup de Ripollin, alors que pas du tout, quoi.
Alors que pas du tout. Non, il y a eu une récupération spectaculaire de ces mouvements-là, mais d'un autre côté, ce que j'ai envie de me dire à moi, à ce moment-là, de 20 ans, c'est de toute façon, à partir du moment où on donne son image au spectacle, on est destiné à être englouti par le spectacle et il y a forcément une récupération spectaculaire là-dedans. Non, mais c'est tout ce qui est censé être subversif à la base va forcément être récupéré tôt ou tard parce que c'est le meilleur moyen de contrôler les choses. Enfin, j'en suis vraiment beaucoup, ces 10 dernières années, j'en suis énormément revenue parce que j'ai bossé sur des documentaires aussi qui parlent de ces questions-là.
On va en parler, bien évidemment qu'on va en parler. Il y a 10 ans, il y a effectivement un virage que vous prenez, vous vous éloignez de l'industrie du X et vous commencez à dénoncer ces dérives possibles dans des essais, dans des documentaires. Et le premier fut Rhabillage, tourné en 2011 justement pour France 2.
J'ai fait partie de ces femmes qui se sont rhabillées sans pour autant se repentir. J'ai fait le choix de tourner des films pornographiques entre 18 et 22 ans. Une activité légale pourtant, un choix pleinement consenti, mais pour lequel bien des années après je continue à payer le prix fort. À l'instar de toutes mes consœurs, dont certaines ne se sont jamais remises, est-elle un véritable tatouage social ? Notre passé d'actrice ne cesse de ressurgir. 10 ans, 20 ans, 30 ans, combien d'années encore faudra-t-il attendre pour que l'on nous considère enfin comme rhabillés ?
Dans ce film, vous racontez, en interrogeant des actrices de X, combien ce passé-là rend toute vie affective, familiale et amoureuse, si ce n'est impossible, du moins très difficile. Pourquoi le grand public n'arrive pas à décoller ces étiquettes ? Il y a un côté, c'est le fer rouge de la morale, c'est ça ?
C'est la stigmatisation, c'est la lettre écarlate, c'est un marquage au fer rouge, bien sûr. C'est une façon de punir les femmes qui ont... revendiquer une forme de liberté de disposer de leur cul comme elles l'entendent, en fait. C'est vraiment punir. Je vois pas d'autre terme, hein. C'est vraiment punir les femmes de ça. Alors, on va les punir de différentes façons. On va les punir en les rabaissant. On va les punir éventuellement en les agressant. On va les punir en leur faisant comprendre que ce seront jamais de bonnes mères. Donc, on va en remettre en question leur légitimité maternelle. On va remettre en question leur capacité, je dirais, à être aimée aussi, à être en couple. On va remettre, évidemment, la question de la reconversion professionnelle, elle est extrêmement sensible, même pour aller vendre des chaussures ou même travailler dans un open space, je sais pas, dans un centre d'appel où on peut voir notre visage. Il y a des filles qui se sont fait virer comme ça du jour au lendemain parce qu'on les reconnaissait, qu'on savait que c'était des anciennes actrices. Enfin, c'est en fait, je trouve que la période de rhabillage, là maintenant j'ai du recul par rapport à tout ça, moi ça fait 20 ans que je suis rhabillée, mais la période de rhabillage est beaucoup beaucoup plus violente et beaucoup plus difficile à vivre que la période que l'aventure pornographique, quoi.
Ah oui, ouais, c'est après, c'est parce que c'est le regard des autres, quoi.
C'est pire.
Vous avez toujours assumé, vous avez une trajectoire qui est absolument unique. Il y a un moment où vous vous sentez fragilisée vis-à-vis de ça, c'est quand vous devenez mère. Vous l'écrivez dans le livre, vous dites: c'était une évidence, c'était un appel presque animal de devenir mère. Et en même temps, il y a un tombereau d'angoisse qui vous submerge. Vous vous dites: j'ai peur qu'on lui fasse payer à ma fille ce que j'ai été moi.
Ouais, j'ai eu peur à ce moment-là. Maintenant, c'est réglé, hein. Ma fille, elle est grande et machin et tout. Et tout le pire, on nous avait prédit quelque chose d'apocalyptique, comme quoi elle allait se faire harceler à l'école, etc., etc. Et en fait, tout ce qu'on nous a prédit ne s'est pas produit, en fin de compte. Et elle va très bien.
Vous en avez parlé entre vous, elle vous a posé des questions. Vous avez senti, vous dites que par exemple, au moment de la manif pour tous, vous sentez qu'elle a peur pour vous.
Ouais, mais elle, à ce moment-là, elle sait pas qui je suis, ce que je fais, machin et tout, hein, pas du tout. Mais elle sent bien qu'elle a une maman qui est un peu différente des autres mamans, quoi, qui est un peu autonome, qui est un peu féministe, qui est machin et tout ça. Mais au moment de la manif pour tous, on a été un certain nombre à avoir peur. Mes copines lesbiennes, enfin voilà, toutes celles qui avaient, je dirais, une maternité différente, celles qui avaient décidé de faire des bébés toutes seules, etc. Enfin, toutes celles qui sortaient du schéma un papa, une maman, ont eu peur d'être remises en question dans leur légitimité maternelle. Mais c'est une question qu'on m'a déjà posée, genre oui, et ta fille, mais ma fille, déjà avant de le savoir, je sais pas, elle a su, elle devait avoir 13 ans ou 14 ans, un truc comme ça. Mais avant ça, avant de le savoir, elle avait déjà vu des docs que j'avais pu faire. Elle voyait que je bossais tout le temps, elle voyait que je publiais tout le temps. Elle voyait que, je sais pas, dans la rue, il y avait des gens qui disaient: ah super, j'ai lu tel article, ah super, j'ai lu votre livre, des gens qui me parlaient de combat, en fait, de combat féministe. Et donc elle m'a vu comme ça, et quelque part, quand elle l'a su, ça a été une non annonce, en fait.
C'est-à-dire, elle l'a inscrit dans un parcours cohérent.
Bah, elle voyait que maman, était féministe un peu bourrine, quoi. Et donc, quelque part, ça l'a pas... je crois qu'elle elle l'a su un jour en lisant ma fiche Wikipédia, en fait. C'est ça que ça s'est passé. Elle est tombée sur ma fiche Wikipédia parce qu'elle me stalkait un peu, là, pour savoir, je sais pas quoi. Je crois qu'elle cherchait un de mes docs, en fait. Et puis voilà, elle est tombée là-dessus. Elle dit, ah bon, puis on a parlé. Mais pour elle, c'était vraiment un non-événement et ça a été réglé assez vite.
Ce que vous dites aussi, c'est qu'elle n'a pas la même adolescence que la vôtre.
Ouais.
Vous la voyez, elle, vous voyez ses copines, vous intervenez dans les lycées.
Ouais.
Quand vous les voyez, vous vous dites quoi ?
Moi, je les trouve à 1000 kilomètres de ce que nous, on était, déjà, sur les questions de féminisme, d'antisexisme, de plein de choses, sur les questions de lutte contre l'homophobie, sur les questions de non-binarité, quoi. Elles sont plusieurs. La joie, elles se cherchent toutes, un peu, à se dire, est-ce que je masculiniserai pas mon prénom ? Enfin, elles se cherchent, là, vraiment, elle et ses potes, là. Et je trouve ça hyper intéressant, qui se passe. Moi, c'est une génération que j'adore, en fait. J'adore les gamins de cet âge-là, mais je les trouve tellement super, quoi.
C'est l'adolescence en plein MeToo. Alors, c'est l'explosion pour eux, pour nous, évidemment, d'un nouveau vocabulaire, harcèlement, consentement, tout ce qui touche aux violences sexuelles. Et par exemple, à ce qu'on a commencé tout récemment à appeler les violences obstétricales. Vous en avez fait un film pour Arte en juillet 2019, Tu enfanteras dans la douleur.
Il a commencé à recoudre, et dès qu'il a commencé à recoudre, j'ai donné un grand coup, j'ai dit... Ça me fait mal, quoi. Et il a continué à suturer et à me dire de pas bouger. Et... Enfin, c'était horrible, ça faisait super mal. Ça a duré 45 minutes. Et en plus, il fallait qu'il vérifie si c'était bien suturé. Donc, j'ai eu droit au toucher vaginal et toucher rectal.
J'ai mis des mois à m'en remettre. Parce que je pouvais plus dormir sans me retrouver dans cette pièce-là, attachée avec des gens autour de moi, avec un scalpel. Et toutes les nuits, je me faisais ouvrir le ventre, quoi.
Et puis finalement, la gynéco a sorti ma fille. Hyper brutale, c'est-à-dire vraiment la jeter comme ça. Je pense que c'est le côté, une fois que la mère a le bébé, elle oublie tout. Donc on lui file très vite comme ça, c'est bon, ça sera oublié. Mais non, en fait, moi, j'ai juste pas compris ce que j'ai vu. J'ai vu un bébé et je viens tout. En fait, l'enchaînement était tel que, vu ce qui s'était passé avant, vu l'horreur que ça avait été avant, j'étais plus dans un accouchement. C'était... C'était une scène de massacre, quoi.
J'arrive même pas à enchaîner, en fait. Il est bouleversant, ce film. Il est tellement bien fait. Il est dense, il est coup de poing, il est caresse, il est tout, quoi. Alors, avant...
Et il est accessible en ligne sur arte.tv. Gratos.
Voilà.
Avant, Tu enfanteras dans la douleur, il y aura eu À quoi rêvent les jeunes filles, par exemple, où là où les putains n'existent pas. Une sélection pour le prix Albert Londres et vous allez jusqu'en finale. Un doctorat en lettres et études filmiques, des séries documentaires pour France Culture autour de l'éducation sexuelle ou de la sexualité. Bref, vous n'arrêtez pas. Au fond, vous cherchez quoi ?
À remplir ma vie. À remplir ma vie sans temps mort.
Mais vos questions, c'est quoi, au fond ?
Mes questions, en général, c'est des questions qui tournent autour de l'intime et du politique. Quand je dis l'intime, c'est pas forcément le cul, d'ailleurs. C'est toutes des questions qui ont trait à l'intime.
C'est quoi le lien entre Tu enfanteras dans la douleur et À quoi rêvent les jeunes filles
C'est le rapport au corps. C'est ça. Enfin, je dirais la cohérence dans l'ensemble de mon travail.
Le corps au sens de...
C'est le rapport au corps.
Qui est le nerf de la guerre aujourd'hui ? C'est-à-dire que c'est là où tout se joue.
Mais c'est là où c'est toujours joué, tout s'est toujours joué, en fait. Ouais. C'est notre corps. On voit, ne serait-ce que, par exemple, dans les situations de conflit, on voit comment le viol peut être une arme de guerre. Enfin, je veux dire, le corps des femmes, c'est là où résident tous les enjeux. C'est comme ça que naît le patriarcat. Enfin, je veux dire, c'est le corps des femmes, c'est là que tout se joue. C'est pour ça que moi, je me suis toujours peu intéressée, j'avoue, à toutes les questions de, par exemple, d'égalité salariale, etc. Tout ça, c'est des choses pour moi que je trouve importantes et tout ça, mais c'est pas là-dessus, moi. Mon combat, c'est pas celui-là. Mon combat, c'est celui de politiser l'intime. C'est ça, mon combat. Et quand je dis politiser l'intime, ça veut dire aussi politiser l'accouchement, penser à travers un prisme politique, tout ce qui a trait à l'intime.
Ouais.
Donc, à l'intime, c'est aussi la maternité, c'est la sexualité, mais pas que. Souvent, quand on dit intime, on pense au cul, mais c'est pas que ça non plus, l'intime. C'est le rapport au corps, c'est prendre du poids, c'est perdre du poids, c'est se faire vomir, c'est tout ça aussi, le rapport au corps.
Et pour vous, vous écrivez dans cette BD, vous refaites le film à l'envers, vous vous posez la question, qu'aurait été ma vie si j'avais eu le choix de ne pas être hétéro ?
Ouais.
Vous y répondez comment à cette question aujourd'hui?
Ah, j'y réponds pas. Je suis toujours.
Vous avez la flemme. Vous avez la flemme de quoi?
J'ai la flemme de tout remettre en question et de tout recommencer à zéro et de définitivement quitter l'hétérosexualité. En même temps, j'ai eu une longue période de flemme de continuer à relationner avec les hommes.
C'est-à-dire
relationner d'un point de vue intime avec les hommes.
D'accord. Mais vous n'entendez pas l'amitié, par exemple. C'est vraiment.
Non. J'ai des amis que j'aime éperdument et avec qui je couche pas et fort heureusement. Non, c'est pas ça. C'est quand même pas innocent. L'année dernière, pour France Culture, avec Tancrède Ramonet, on a fait une série documentaire qui s'appelle Vivre sans sexualité. Mmh. Et on a quand même fait un truc qui était fou, c'était de l'observation participante. C'est-à-dire, on s'est dit, OK, pour faire cette série, nous, on va arrêter de baiser, en fait. Mmh. On va arrêter toute sexualité. Et pour des besoins narratifs, on dit qu'on a arrêté un an. Mais la réalité, c'est qu'on a arrêté beaucoup, 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 beaucoup plus longtemps. Mmh. Et moi, j'ai eu une période comme ça, où j'étais dans un truc d'abstinence politique, où j'ai décidé volontairement, de faire la grève, quoi. De faire grève, de me dire, OK...
En quoi c'est politique ?
En quoi c'est politique? Il y a qu'à voir, par exemple, tous les endroits, tous les lieux où il y a eu des grèves du sexe, c'était toujours dans, je pense au Libéria, par exemple, quand les femmes ont décidé de faire la grève du sexe, c'était pour mettre un terme à des conflits armés. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours un enjeu dans le fait de baiser ou ne pas baiser, il y a toujours un enjeu.
Vous vous en êtes sorti comment? Et pourquoi de cette période de grève?
Ouais. Est-ce que j'en suis sortie? faudrait poser la question aussi à Tancrède, en fait. On a un peu de mal à se remettre en selle. L'un comme l'autre, séparément. Hein, je veux pas.
Mais c'est vrai que dit comme ça, ça pouvait être ambigu.
Oui, non. Mais on a dû. Ouais.
Unique en son genre. Julia Foyce.
Eh ben ça y est, on peut l'ouvrir, notre labo du genre, cet endroit où chaque semaine nos invités déposent ce qui fait d'eux les femmes ou les hommes qu'ils sont aujourd'hui. Le genre à leur manière et le sexe à l'envie. Ovidie, quel objet raconte votre féminin?
J'ai amené mon tube d'eyeliner.
Ouvrez-le.
En fait, l'eyeliner, j'en mets tous les jours, depuis que j'ai l'âge de 14 ans.
C'est vrai?
Ouais, et vu que j'avais pas trop le droit de me maquiller, à l'époque, j'ai appris à me maquiller dans le bus du lycée.
Ah, bravo.
Ce qui est quand même la pire situation pour mettre de l'eyeliner, parce que toutes les filles qui mettent de l'eyeliner le savent, c'est une galère d'avoir les yeux identiques et tout ça. Et ce qui fait que là, maintenant, je pense que je pourrais me faire un trait d'eyeliner, mais en faisant le poirier, sans problème, quoi.
Chapeau, vous m'épatez, comme toujours.
Votre mère se maquillait?
Ouais, beaucoup trop.
C'est vrai?
Ouais.
C'est quel modèle de femme, votre mère?
Ah, c'est juste pas moi. Elle est très, très solaire. Elle parle beaucoup. Elle est rousse. Moi, je suis pâle avec mes cheveux noirs, etc. Donc non, elle est pas... On est très, très différentes. Mais malgré tout, une forme d'émancipation. Je pense qu'elle m'a transmis ça, quand même.
Alors, elle est un peu dépassée parmi tout. Vous le racontez dans le livre. Hein. Vous notez quelques... Il y a des dialogues assez savoureux entre vous, mais comme vous le faites, je vais me permettre de lui laisser le dernier mot. Je vais lire les dernières pages de votre livre, si vous êtes d'accord.
Ok.
Ouais. Alors, elle vous dit, vous êtes toutes les deux sur une chaise longue dans un jardin. Elle vous dit, mais tu ne te rends pas compte d'où je pars, d'où les femmes de mon âge partent. Tu te plains souvent, mais ta génération, vous avez eu une liberté qu'on aurait rêvé d'avoir. Quand j'étais jeune, on n'avait même pas le droit d'embrasser un garçon. Si un oncle ou un voisin nous surprenait, c'était le déshonneur, surtout quand on venait d'une petite ville comme la mienne. Pourquoi crois-tu que ma génération a fait mai 68? Parce que c'était plus tenable. Et encore, moi, je n'ai même pas pu manifester parce qu'à 18 ans, j'étais déjà enceinte jusqu'aux yeux de ton frère. Et le temps passe trop vite. Ceux qu'on aime disparaissent. C'est seulement une fois qu'on est fatigué d'avoir fait nos études, élevé nos enfants, bossé toute notre vie, qu'on se rend compte qu'on n'en a pas assez profité. C'est pour ça, profite et sois libre. Surtout, ne te retourne pas. Trace ta route droit devant. Ça ne sert à rien de ruminer le passé tant qu'on est vivant. Rien n'est jamais définitif. Tu vas voir qu'un jour, tu vas ressentir la même chose vis-à-vis de ta fille. Tu vas lui envier sa liberté. Merci infiniment, Ovidie.
Merci.
C'est avec Ovidie que se referme notre série pour que la honte change de camp. On se retrouve bien sûr en podcast, sur les réseaux et à l'antenne tous les samedis à 20h pour une nouvelle balade en marge. À très vite et allez hop, on va changer tout ça.